Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h49, les grands débats ce matin, Elisabeth Lévy, Lydia Guérouse, vos appels 0826-300-300. Dans un petit quart d'heure, Éric Revel sera avec nous pour Revel en campagne.
Oui. En attendant, sur la dette, hein,
sur
ce
la
matin.
Dette, ouais, exactement.
Donc, chiffre de la dette, et puis vous avez vu, dans les différents candidats commencent à en parler, bien, nous verrons ça avec lui en détail.
Hein. Et on va revenir sur ce documentaire Zone Interdite, puisque Roubaix est encore en top tweet ce matin, et sur ce qui s'est passé dedans, sur les écoles islamistes, enfin voilà, sur les poupées sans tête, sur pas mal de sujets qui ont été évoqués.
Oui, les poupées sans tête, l'islam, c'était un reportage donc sur une école effectivement radicalisée à Roubaix. Vous connaissez bien le sujet, évidemment, pour avoir écrit un livre il y a une dizaine d'années, et y avoir vécu, hein, Lydia Guérouse, vous allez nous l'évoquer. Elisabeth Lévy, vous en aviez fait votre chronique et votre édito hier matin. J'imagine aussi que ça suscite beaucoup de réactions chez vous. Alors, on va réécouter un petit extrait, hein, Cécile, du reportage d'avant-hier.
Écoutez, oui.
C'est... Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Selon les courants de l'islam radical, toute représentation humaine est interdite. D'ailleurs, dans la librairie d'à côté, les personnages des livres pour enfants ont eux aussi leurs traits complètement effacés.
Voilà, donc voilà. Un extrait. Ces poupées sans visage qui ont beaucoup choqué. Pourquoi, d'ailleurs, des poupées sans visage, si on peut donner une explication, Lydia Guérouse.
Bah parce que chez les islamistes, qui ont une vision extrêmement rigoriste et donc obscurantiste, il ne faut pas représenter de visage. Vous ne pouvez pas représenter de visage. Mais moi, quand j'ai vu ce sujet arriver, je me suis dit, bon, bah, on va refaire, en fait, on va redécouvrir l'eau chaude. Roubaix ou Saint-Denis ou des villes de la banlieue lyonnaise ou autour de Toulouse ou dans tellement d'autres quartiers en France qui vivent sous le joug des islamistes avec une contre-société.
Des islamistes radicaux, hein, bien sûr.
Des islamistes, mais ils sont forcément radicaux, oui, oui. Les islamistes, avec une contre-société qui se construit. Ça ne date pas d'hier. Moi, j'avais écrit sur la situation de Roubaix en 2014 avec Alaï Grand, La République aussi, à l'époque on disait que j'étais une affreuse menteuse, une affreuse islamophobe, et on n'a pas voulu voir la situation. J'avais tiré la sonnette d'alarme, j'avais été très violemment attaquée, caricaturée, voilà, enfin on redécouvre, c'est fascinant en France, on redécouvre systématiquement l'eau chaude et on se dit, oh c'est étonnant, l'islamisme avance, l'islamisme existe, l'islamisme s'en prend aux enfants, quand est-ce qu'on écoutera les personnes qui alertent au moment où elles alertent avec sincérité, avec des choses qui sont factuelles et démontrées. Vous pourrez trouver ces poupées sur Internet. J'avais écrit dans un de mes livres comment on trouve aussi des abayas, des jilbabs, vous savez, ces tenues islamistes pour les femmes à partir de 12 mois, avec quelques clics. J'avais fait des recherches à l'époque, j'attendais mon enfant, je regardais les boutiques pour enfants, et puis je faisais des recherches en parallèle et je suis tombée sur ces sites de jouets islamistes, de vêtements intégristes, donc on parle quasiment de niqab à partir de 12 mois. Tout ça est accessible avec quelques clics et vous pouvez le retrouver aussi dans certaines boutiques à Paris, hein, du côté de Couronne, en Seine-Saint-Denis. Enfin, ce n'est pas qu'à Roubaix. Je ne minimise pas la situation de Roubaix que je connais très bien. J'ai passé mon bac à Roubaix, j'ai grandi à Roubaix, j'ai encore des attaches à Roubaix. J'y étais à Noël encore. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est sur beaucoup plus d'espace de notre territoire national.
Oui, aujourd'hui. Elisabeth Lévy.
Oui, alors bon, je suis d'accord avec Lydia sur le côté on découvre l'eau chaude, puisque à intervalles réguliers, moi quand j'ai entendu parler avant de le regarder ce documentaire, je me suis dit mais on va rien apprendre, on le sait très bien, on sait que ça existe, etc. Donc ça, là-dessus, je suis totalement d'accord. Je voudrais d'abord faire une précision sur cette affaire. C'est pas les islamistes qui proscrivent la représentation du visage divin, c'est l'islam. D'abord. Alors après, certains l'appliquent Lydia, écoutez, non. Oui. Là, j'arrête tout de suite. Si je peux pas parler.
Si, parlez. Mais elle voulait préciser quelque chose.
Mais à chaque fois, c'est la même chose. Je commence une phrase et je ne peux pas poursuivre. Vous venez de parler pendant 4 minutes. Oui. Alors, si ça ne vous ennuie pas, ma chère Lydia, je vais essayer de m'exprimer à mon tour. Oui. Merci. Oui. Donc, mais c'est tout le temps la même histoire.
Allez, Elisabeth, allez-y.
Alors, je continue. Merci. Donc, ce n'est pas l'islamisme qui proscrit la représentation du visage divin. Comme vous le voyez, d'ailleurs, il suffit d'aller dans n'importe quel musée. Je veux dire, il y a très peu, effectivement, de représentations de personnages chez l'islam. Simplement, il y a certains qui l'appliquent avec rigueur et littéralisme et d'autres non. Mais tout ça pour vous amener justement à une chose que je trouve, si vous voulez, cette distinction rassurante entre l'islam et l'islamisme, toujours un peu... Elle n'est pas si étanche que cela, parce que par exemple les chauffeurs de bus de la RATP, si vous voulez, qui déchirent les affiches de Borat sur les bus, eh bien si vous les voyez dans la vie, vous ne vous direz pas que ce sont des islamistes, vous vous direz que ce sont des musulmans. Voilà. Donc je ne dis pas que ce sont que je ne dis pas que tout le monde est pareil. Il y a bien sûr de grandes différences. Simplement, je pense qu'il y a un continuum plutôt qu'une frontière étanche. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je voulais citer une réplique qui m'a beaucoup effrayée, je dois dire, dans ce documentaire. C'est quand la journaliste demande à... Alors, il y a à Roubaix, il y a à Marseille aussi, hein, Patrick. Tout ne se passe pas à Roubaix. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Marseille et il y a un peu de Bobigny, si je ne m'abuse, pour la fac. Mais donc c'est le directeur d'une école hors contrat à Marseille, et cette école hors contrat cache également une école clandestine. Et elle demande, donc il y a une non-mixité très stricte, hein, il faut surtout pas que les petites filles puissent apercevoir les petits garçons. Et quand la journaliste demande au directeur, elle lui dit « Mais enfin, ça, c'est pas le mode de vie en France », il a cette réponse, il lui dit « Ce n'est pas le mode de vie actuel ».
Oui.
Donc, non, mais et ça, je dois dire que tout est dit là-dedans.
Ouais,
ils savent ce qu'ils veulent.
Ouais, c'est vrai. Lydia Guirouz, pour revenir aussi, bah, c'est vrai, quand vous l'aviez dénoncé en fait il y a 10 ans, il y avait des menaces à la suite de ça, hein, de votre livre. Là, il y a eu ce jeune aussi, Amine Elhabi, donc qui juriste, avocat, qui a emmené un petit peu visiblement des journalistes en fait sur place et qui a pris en fait la parole, qui lui aussi est menacé. C'est-à-dire que c'est toujours un peu la même chose. Quand on va dénoncer ce genre de situation, on risque d'être sous le coup de menace.
Oui, maintenant c'est une grande habitude, hein, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets. Les menaces sont complètement décomplexées. Les réseaux sociaux y participent beaucoup. Donc, tout le monde reçoit aujourd'hui des menaces pour un oui, pour un non. On n'accepte plus le débat, on n'accepte plus qu'on puisse avoir des positions opposées. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été menacés, qui ont condamné des personnes aussi, qui ont fait condamner des personnes pour menaces de mort à répétition. Parfois, je m'amuse de voir que ceux qui ont parfois participé à cette espèce de cabale à l'époque ont changé d'avis et ont changé de camp. Je donnerai pas plus de détails.
Si.
C'est intéressant de voir aussi que il y a des gens qui peuvent changer d'avis,
oui,
quoi,
oui,
bien sûr.
C'est bien de changer d'avis dans cette direction-là, mais je n'oublie pas qu'ils ont fait partie de ceux qui ont parfois participé à me jeter en pâture lorsque j'ai dénoncé
des politiques, notamment
des politiques ou certains qui témoignent dans des documentaires très récents. Des jeunes, mais ce sera intéressant de retrouver certains passages où ces jeunes qui aujourd'hui voient ce qui est réellement devenu Roubaix décident enfin d'ouvrir les yeux. À l'époque, disaient que non, ça n'existait pas, cette enfilade de commerces qui sont exclusivement halal, de femmes qui sont totalement voilées, d'enfants qu'on embrigade, sinon ils ne peuvent plus vivre normalement à Roubaix, de femmes qui sont condamnées à raser les murs. À l'époque, on me disait que c'était totalement faux, et ils ont participé à me traîner dans la boue. Aujourd'hui, je les vois témoigner dans des documentaires où ils reconnaissent enfin que les choses existent. Donc c'est très bien, et les menaces de mort doivent être toutes poursuivies, et c'est vrai qu'il faudrait une régularisation des réseaux sociaux, parce qu'il y a vraiment des choses terribles qui peuvent amener au pire, on l'a vu notamment avec Samuel Paty.
Allez, nous allons.
Ils ont été condamnés à quoi? Juste un mot, Lydia. Vous avez fait condamner des gens?
Non.
Mais pour menaces de mort, répétition contre moi, et c'était Richard Malka qui était. Mon
ils ont été condamnés à quoi? Des amendes?
Ils ont eu du sursis, malheureusement. Il y a eu des amendes aussi. De mémoire, je ne crois pas qu'il y ait eu du ferme. Et le pire avait été qu'il fallait faire un moment appel pour avoir une condamnation, alors que les faits étaient très graves et répétés.
Dans un instant, vous pouvez réagir sur ce sujet, 0826-300-300, vous avez la parole, ce sont les grands débats jusqu'à 9h30. Dans les grands débats tout à l'heure, on va aborder la dette avec Éric Revel, et on reviendra aussi sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit se déclarer en fait maintenant? C'est la question qu'on pose sur les réseaux sociaux. Et puis, est-ce qu'il doit participer, bah, pourquoi pas, à des débats
avant
du premier tour,
parce
que visiblement, il n'en a pas envie.
Allez, à tout de suite,
la parole est à vous.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06, tout de suite, Éric Revel.
Sud Radio, présidentielle 2022.
Éric Revel en campagne, bonjour Éric.
Bonjour Cécile.
Oui,
bonjour
Éric,
Patrick.
Alors Éric, la question de l'énorme dette publique hein, dans notre pays s'invite dans la campagne des présidentielles parce que le gouvernement essaie de minimiser, on l'a vu à plusieurs reprises, quand nous avons reçu par exemple Olivier Dussopt, hein, et, qui est en charge des comptes publics il y a quelques jours. Mais le gouverneur de la Banque de France, lui, il tire la sonnette d'alarme au contraire. Hein.
Ah oui, oui, c'est vraiment devenu un vrai sujet d'inquiétude nationale au niveau de la dette publique et s'invite évidemment, cette question s'invite dans les débats présidentiels. Alors le gouverneur de la Banque de France dont vous parliez, il s'est alarmé, Patrick, il y a quelques jours de la dégradation des finances publiques de notre pays. C'est François Villeroy de Galhau, hein, c'est le nom du gouverneur. Mmh. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a rappelé tout simplement que la France n'a plus les moyens ni de dépenses nouvelles, ni de baisse d'impôts supplémentaires. Cet avertissement du banquier central français est passé, à mon sens, trop inaperçu, et pourtant il est solennel, parce que la dette française atteint près de 2900 milliards d'euros, c'est-à-dire 116% de la richesse créée annuellement par notre pays. C'est gigantesque. La seule crise de la Covid, son financement, s'élève à près, suivant qu'on fait des calculs, 200 milliards d'euros, et il n'y a que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal pour affirmer que le quoi qu'il en coûte a été financé par les réformes, quelles réformes d'ailleurs, alors que le quoi qu'il en coûte a été financé par l'endettement.
Et puis, les spécialistes le disent, Éric, les taux d'intérêt risquent de remonter en cette année 2022 avec un impact négatif supplémentaire, évidemment, sur notre dette nationale.
Oui, oui, ça c'est la grande inconnue, mais les experts, vous avez raison Patrick, s'accordent à dire qu'en 2022, les taux d'intérêt qui sont très bas en ce moment, hein, bon, et ben, ils vont remonter, et du coup, ben, la facture de la dette, de notre dette, va devenir infinançable. Je fais un petit calcul, hein, si vous prenez une hausse des taux d'intérêt d'un point, tiens, et ben, ça alourdirait la dette annuelle de 39 milliards d'euros au bout de 10 ans, c'est-à-dire c'est vertigineux. Sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, on le dit rarement, la dette aura bondi de près de 590 milliards d'euros. Si vous sortez les 200 milliards d'euros du financement du quoi qu'il en coûte, eh bien la dette aura cru ces 5 dernières années de près de 400 milliards d'euros. Le futur ou la future présidente de la République devra traiter en urgence, mais comment, cette question lourde de la dette.
Oui, c'est ça. Alors quelles sont les mesures proposées par les différents candidats à la présidentielle sur cette dette lourde, lourde, bouillante de notre dette publique, hein?
Alors, le sujet de la dette publique, Patrick, est central. J'espère que je viens de le démontrer avec quelques chiffres. Hein. Mais curieusement, j'ai pas trouvé grand-chose dans les programmes. Ce n'est pas populaire, hein. Ce n'est pas bankable en termes de vote de s'attaquer à la question de la dette. Et pourtant, pour l'avenir de l'économie française, donc pour notre avenir, c'est un sujet déterminant. Alors quand même, quelques pistes. Jean-Luc Mélenchon exigerait, s'il était élu de l'Union européenne, que la BCE, la Banque Centrale Européenne, rachète les dettes publiques et les transforme en dettes perpétuelle à taux zéro, bon, on peut rêver entre nous. Valérie Pécresse suggère d'alléger la rigueur budgétaire. Bon, il faut la demander ce que les Allemands en pensent. Et elle veut aussi sortir les dépenses liées à la défense et à la transition énergétique. Bon, là aussi, on peut rêver. Parce que sous Chirac, la France avait déjà tenté ce genre de tour de passe-passe. Et l'Allemagne, on s'en souvient peut-être, s'y opposa. Éric Zemmour, dans son programme, prend le problème différemment. Il veut libérer la croissance en augmentant le PIB pour rendre le niveau de la dette plus soutenable. Bon, mais ça, c'est du long terme, alors que la question de la dette a besoin d'être traitée et vite. Vous vous souvenez, Patrick, des premiers mots que j'ai prononcés, que je rappelais du gouverneur de la Banque de France. Notre pays n'a plus les moyens financiers, ni de dépenses supplémentaires, ni de baisse d'impôts. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quel que soit l'élu, qui est-ce qu'on va taper? Ben, sans doute le contribuable. Alors, de nouveaux impôts en augmentation, et surtout, les Français le supporteront-ils? J'ai du mal à le croire.
Dire, Éric Revel, qu'il y a deux ans, trois ans de cela, pour quelques milliards, puisqu'il y avait les gilets jaunes dans la rue, on se disait, oh là là, on va endetter la France en leur donnant allez, quelques milliards, enfin en donnant en fait aux gens qui souffraient, qui étaient un peu dans la misère, la désespérance, et puis qui avaient des besoins réels. Alors, on parlait de 4 à 10 milliards à l'époque, quoi, hein, c'est ça, je crois qu'on est monté un petit peu plus. Et là, quand j'entends votre chiffre, 400 milliards, 400 milliards, ça semble des sommes colossales. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lydia Guirous, Elisabeth Lévy, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, comme le disait Éric, on en parle très très peu dans les médias globalement et peu chez les candidats. Elisabeth Lévy.
Moi, j'ai juste une question, pardon, je suis pas du tout une spécialiste, ces chiffres sont vertigineux, mais j'ai juste une question. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est encore du sens, c'est-à-dire, est-ce que toute cette dette ne tue pas la dette, en quelque sorte?
Ouais.
Éric, parce que oui, franchement, enfin, on remboursera jamais, non, Éric?
Non, mais on remboursera jamais les 2900 milliards hein, de dettes accumulées, mais...
Ah non, ne répétez pas ces chiffres.
Non, mais où il y a un sujet, je vais essayer de faire passer l'idée très simplement. Ouais. Quand vous êtes à découvert sur votre compte en banque, vous payez des agios, hein. C'est ce que le banquier vous réclame parce qu'il vous prête de l'argent que vous n'aviez pas sur votre compte et que vous avez dépensé. C'est ce qu'on appelle pour un État le service de la dette. Le service de la dette. C'est-à-dire, il s'agit pas de rembourser le principal.
Les intérêts, donc.
Le capital, les intérêts. Les intérêts de la dette. Ça représente plus que l'impôt sur le revenu en France. Et si vous avez une augmentation des taux d'intérêt qui se profile pour 2022, ça veut dire que le service de la dette, il va encore gonfler. Et là, je ne parle pas du remboursement du capital des 2900 milliards, je parle du remboursement des intérêts de notre dette. Eh bien, rien que ce poste-là va nous poser un sujet. Parce qu'une partie de la dette française, et donc du service de la dette, est ce qu'on appelle en taux variable, c'est-à-dire que il augmente en fonction de l'augmentation des taux d'intérêt ou il baisse en fonction de la baisse des taux d'intérêt. Donc ce sujet, personne n'en parle parce que, comme je le disais, il n'est pas bankable en termes de vote. Vous imaginez faire campagne sur « je vais réduire la dette ». Les Français, bon, même s'ils comprennent que le problème est important, c'est pas bankable en termes de vote. Mmh. Mais c'est un sujet central parce que si vous êtes trop endetté et que les marchés financiers se détournent de vous, sera-t-on une sorte de nouvelle Grèce? Vous savez, quand la Grèce avait fait...
Ah ben, j'allais vous poser la question. Ouais, bah oui,
mais
c'est
oui,
ça.
Mais oui, non, mais ces sujets, ils sont sur la table. Et alors, souvent, on dit, non, mais ce que vient de dire Elisabeth, qui est assez juste, oui, mais bon, la dette, un État ne peut pas faire faillite. Mais si, vous avez des États qui, dans l'histoire économique, ont fait faillite. Vous avez, par exemple, l'Argentine. L'Argentine avait, il y a 50 ans, le même niveau de développement, 60 ans, le même niveau de développement économique que la Grande-Bretagne. Eh bien, ce pays a fait faillite, sa monnaie s'est effondrée. Alors, nous, on est encore protégés, évidemment, par l'euro, mais le vrai sujet, c'est de savoir comment les Allemands et le nouveau chancelier allemand va appliquer la rigueur budgétaire à l'allemande qui a mis en scène l'euro. Bref, on n'est pas super bien, mais encore une fois, ce sujet-là, j'ai regardé dans les programmes économiques des candidats, il y en a 3-4 qui trétouillent, passez-moi l'expression, le thème, qui trétouillent le thème, mais personne ne l'aborde frontalement, et pourtant, si les taux remontent, c'est un sujet qui peut être pendant cet été ou même
bien
avant.
Sûr. Ouais, bien sûr. Lydia Guirous.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité par les candidats et pourtant qui est quand même très très important parce qu'on a, c'est typiquement français, on a un taux de prélèvement qui est monstrueux quand même, on a un taux des impôts sont très très importants en France. On a un niveau de dette qui est très important, je crois que c'est plus de 120% maintenant du PIB, une balance commerciale qui est négative et pourtant on n'en parle pas, on ne s'alerte pas et c'est vrai que ça peut nous revenir en coup de boomerang dans la figure, c'est quand même très surprenant de voir la France qui est censée être une puissance mondiale être dans la situation financière presque de la Grèce ou des pays du sud de l'Europe, donc il faudrait pas qu'on se retrouve dans cette situation, mais qui pourra redresser cette situation, quelles mesures il faut prendre pour le faire, est-ce que les Français sont vraiment prêts à faire des sacrifices, et est-ce que l'euro, Éric Revel, est-ce que l'euro, le niveau de l'euro qui profite plutôt à l'Allemagne, on ne devrait pas essayer de négocier pour avoir un euro qui soit plus favorable à l'économie française?
Bah, l'euro, oui, il est élevé. Il a beaucoup monté, notamment face au dollar. Maintenant, il y a plusieurs pays qui ont en commun la monnaie unique. C'est pas simple de dire on veut un euro plus faible. Vous voyez, on reviendrait à la situation précédente en France.
Mais on dit toujours que l'euro fort profite à l'Allemagne et pas à la France.
Oui. Oui, enfin, il profite à l'Allemagne, mais surtout l'Allemagne n'a pas désindustrialisé son pays comme on l'a fait pendant des dizaines d'années ici. Vous parliez du commerce extérieur. Je veux dire, là aussi, les chiffres sont vertigineux. C'est moins 85 milliards d'euros pour 2021 et les projections nous disent que le commerce extérieur français va être déficitaire entre moins 95 et moins 100 milliards d'euros l'année prochaine. Mais c'est absolument hallucinant. Donc tous ces chiffres macroéconomiques qui passent au-dessus ou en dessous, d'ailleurs ce qui permet, moi j'ai fait un tweet qui a été largement repris, mais quand Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement dans une émission, explique que on a financé le quoi qu'il en coûte avec les réformes, mais attendez, mais c'est juste absolument incroyable. Ouais. Et encore une fois, je ne remets pas en cause le fait qu'il a fallu soutenir en chômage partiel ou les entreprises. Ouais. Ce n'est pas le sujet. Ouais. Mais dire qu'on a financé grâce à des réformes économiques qui en fait n'ont pas été faites, c'est quand même... Ouais. Bah tiens, c'est un fake news.
Ouais. Question encore avec Elisabeth Lévy. Hein.
Non, j'ai encore une question, puisque nous tenons un spécialiste.
Oui.
nous lui faisons rendre gorge. Donc, cher Eric, est-ce que vous iriez quand même, parce que vous avez en partie répondu, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que dans le fond, ce quoi qu'il en coûte, si vous voulez, était complètement irresponsable et que Emmanuel Macron, si vous voulez, a joué pour lui, parce que évidemment, électoralement, c'était tout à fait payant, en se foutant un peu de ce qui allait se passer derrière.
Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je veux dire, vous vous souvenez de la crise de 2008 des subprimes. On avait mis aussi en place des amortisseurs sociaux en France. Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs lui-même vanté les amortisseurs sociaux en France pour passer la crise. Donc non, le sujet, c'est pas, encore une fois, c'est pas qu'il a fallu bourse délier soutenir l'économie française. Sinon, on aurait un taux de chômage très important et on serait dans une situation plus apocalyptique. Me semble-t-il. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir investir avec des niveaux de dette comme on a aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire de la croissance? Pour l'instant, tout le monde rigole, on est à plus 6, plus 5, plus 7, mais c'est juste un rattrapage par rapport à la récession économique de 2020. Donc les sujets, ils sont devant nous, et moi, ce qui me frappe encore une fois,
personne n'en parle.
Et c'est pour ça que... Mais oui, personne ne parle de ces grands sujets macroéconomiques. Ouais. Personne ne se dit, mais on a quand même un petit souci.
Eh bien, on refera d'ailleurs un sujet dans La Vérité en Face chaque matin, nos grands dossiers de 9h30 à 10h. Tout à l'heure, ce sera à la fin de vie, mais on refera aussi sur la dette. On a déjà évoqué à quelques reprises aussi, par exemple, le protectionnisme, l'industrie. Nous y reviendrons, bien sûr. Dans un instant, Cécile, les grands débats du matin qui continuent autour d'une question.
Absolument. Sur la question de la fin de vie, faut-il aller au-delà des dispositions ou êtes-vous favorable en tout cas à l'euthanasie? En tout cas, vous répondez ce matin avec différentes possibilités. On vous en parle dans un instant.
Dans 10 minutes en fait maintenant. Et juste avant ça, Emmanuel Macron, bien sûr. Est-ce qu'il doit se déclarer? C'est ce qu'on va voir dans un instant.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h22, toujours les grands débats ce matin. Lydia Guérous, Elisabeth Lévy, Éric Revel et vos appels 0826-300-300 avec cette question du jour. Emmanuel Macron doit-il se déclarer et débattre avec les autres candidats? Vous dites oui à 90% et Machotte nous dit, il est déjà en campagne depuis plusieurs mois. La démocratie et le respect vis-à-vis des Français l'exigent.
Ouais, pas complètement faux. 0826-300-300.
Et c'est Frédéric qui nous appelle
Frédéric qui est
de
avec
Bergerac.
Nous. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Ça va, merci.
Bien,
vous.
Et vous?
Bon, ça va, oui.
Oui, ça va.
Je me sens un petit peu demi-citoyen depuis hier, mais enfin bon.
Le passe, oui. Alors, sur Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit aujourd'hui vraiment se déclarer ou alors, parce que, comme on l'observait en fait ce matin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de présidents qui attendent quand ils se sont représentés. Je pense à Mitterrand, je pense en fait même à Chirac, je pense aussi à Nicolas Sarkozy, qui attendent le plus tard possible.
Oui, non, mais là il a une bonne raison pour lui-même, parce que moi je suis pas d'accord avec ça, comme beaucoup d'auditeurs, puisque vous avez votre sondage qui fait.
Oui.
C'est que de toute façon, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un changement là, qui va se passer d'ici peut-être quelques jours, quelques semaines. Parce qu'il y a des informations, quand on regarde l'information de ce qui se passe dans le monde entier concernant le Covid, Et puis quand on va être passé à l'heure du bilan avec des autres choses que des brèves d'AFP ou des débats pas trop organisés, pas trop longs, bon, on va peut-être se rendre compte que ils se sont gargarisés d'avoir bien géré cette crise. Quand les chiffres vont sortir, les vrais chiffres, je parle dans le monde entier, il va réfléchir. Et il avait dit l'année dernière que de toute façon, il avait dit deux fois qu'il allait faire des choses qui feraient en sorte qu'il pourrait peut-être pas se représenter. Donc c'est la réponse à ça. Oui. De toute façon, c'est très simplement. Comme pour l'instant,
Vous croyez, Frédéric, qu'aujourd'hui, il n'a plus envie de se représenter?
Mais c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est que si vraiment tout ce qu'on voit circuler, alors attention, il y a de tout, enfin, il y a quand même pas mal de choses vraies, parce que c'est pas... Souvent on dit les réseaux sociaux, souvent c'est de la réinformation qu'on n'a pas, parce qu'il y a, le mensonge par omission, il y a beaucoup quand même, les médias mainstream ne disent pas tout, au fur et à mesure les gens commencent à comprendre, donc s'il s'est loupé, et qu'il est déjà engagé, ça va être compliqué, alors qu'il peut très bien ne pas s'engager. De toute façon, il a sa colissière. De toute façon, c'est Valérie Pécresse. De toute manière, elle fait semblant de l'attaquer de temps en temps.
Oui, alors,
de toute manière, elle est en réserve. Il ne faut pas oublier qu'elle appartient au même système, de toute façon.
C'est ce que je disais tout à l'heure avec Bruno Retailleau, quoi. Ce que je disais.
Elle appartient au même système. C'est la roue de secours. Donc, lui, il peut ne pas se présenter. Il sait que, de toute façon, ce système qui vise un petit peu à mondialiser la France via l'Europe, de toute façon, continuera quand même, de toute façon. Donc, tout est prévu, tout est organisé. McKinsey s'occupe de tout en France, de toute façon, on le sait. Et puis voilà, donc pour l'instant, il attend parce qu'il attend de voir comment ça tourne. Ouais. Je pense que c'est alors, ça qu'il veut, mais c'est pas honnête par contre.
Ouais. C'est intéressant, Frédéric, ce que vous dites. Lydia Guirous, Éric Revel et Elisabeth Lévy, il nous reste encore quelques minutes sur ce sujet. Lydia Guirous, vous comprenez en fait beaucoup de ces attaques qui disent de toute manière, Macron. Ou Pécresse, c'est la même chose.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ça, parce que...
Les programmes ne sont pas si éloignés que ça. Il y a
sur les programmes, c'est vrai qu'il n'y a pas d'immenses différences. Il y a des subtilités, on va dire. L'image de Valérie Pécresse, c'est l'image d'une femme de droite modérée, un peu centriste, un peu comme Édouard Philippe, finalement, qu'elle avait été proche d'Alain Juppé, ensuite de François Fillon. Donc, et à un moment, il s'est dit qu'elle souhaitait être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, ça avait circulé. Et puis, il y a son avocat, qui est Alain Minc, qui dit que c'est Emmanuel Macron en mieux. C'est le même diplôme, l'ENA, c'est des cerveaux très forts techniquement, qu'elle serait mieux puisqu'elle diviserait moins. Donc c'est vrai que ça peut laisser penser que Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est sur ce terrain-là que Éric Zemmour et Marine Le Pen attaquent très fortement.
Marine Le Pen, déjà à l'époque, c'était l'UMPS, souvenez-vous.
Voilà, ouais. Et ils attaquent là-dessus, notamment Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, en même temps, est le meilleur allié de Valérie Pécresse pour lui permettre d'arriver au second tour et d'éliminer au passage Marine Le Pen. Il y a un petit jeu à trois.
Oui. Elisabeth Lévy.
Oui, alors sur la dernière partie, Lydia a parfaitement raison. Et d'ailleurs, Zemmour l'a même avoué, puisqu'il a dit qu'en gros... pour Valérie Pécresse, me donner ses parrainages ou me faire donner des parrainages, c'est sa seule certitude d'être second tour. Donc en plus, il y avait cette espèce d'aveu un peu, presque naïf. Cela dit, oui, moi je pense que effectivement, je ne vois pas de grande différence idéologique, et je vous l'avoue, si vous voulez, je ne fais pas grande confiance au grand discours régalien de Valérie Pécresse. Je crains, si vous voulez, que les lendemains d'élection Zemmour dit souvent c'est une chiraquienne, je n'ai pas oublié ce qu'est devenu la fracture sociale en 95 au lendemain de l'élection. On disait dans les couloirs de l'Élysée, oulala, mais ça c'était les approximations sémantiques de la campagne. Donc je vous l'avoue, c'est vrai, je crains que Valérie Pécresse, si vous voulez, ne tienne pas beaucoup ses promesses régaliennes, comme Emmanuel Macron ne les a pas tenues. Cependant, j'aurais quand même envie de dire à Frédéric, c'est pas le système qui vote, c'est vous. Et à la fin, c'est les électeurs qui ont le dernier mot. Donc si celui qui sera élu, si vous voulez, on pourra pas dire c'est le système. Nous sommes tous des électeurs et nous avons la possibilité, si vous voulez, de peser sur ce qui se passe.
Bah, écoutez, oui, nous verrons si en tout cas Emmanuel Macron se déclarera avant la mi-février ou pas. Il peut attendre aussi la dernière.
Juste un mot par rapport à ce que disait Lydia dans sa chronique.
Oui.
C'est que moi je suis complètement
sur les débats télé. Oui, c'est ça, un débat télé.
Je suis complètement, si vous voulez, je trouve que ce refus du débat devrait quand même, enfin en tous les cas, est assez inquiétant. C'est-à-dire, soit c'est de l'arrogance. C'est-à-dire, je suis au-dessus de vous, je ne vais quand même pas me donner cette peine de descendre dans l'arène. Soit il a la trouille, et dans les deux cas, c'est inquiétant pour Emmanuel Macron.
Oui, oui. Bah, c'est-à-dire qu'en même temps, il ne veut peut-être pas se retrouver non plus à 14, ou alors uniquement face à ses principaux adversaires. Bon, c'est pas joué encore.
Non, c'est pas joué, mais encore une fois, en 2012, François Bayrou, qui n'était pas ancien président, évidemment, mais il avait envoyé Marielle de Sarnez, parce qu'il n'avait pas envie de débattre avec tous les petits candidats, et Nicolas Sarkozy, qui était sortant, avait envoyé Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça peut aussi être une formule. Ça serait vraiment la première fois qu'un président sortant débat avec l'ensemble des candidats
au premier tour.
Et quel débat à 14-15
Oui.
Vous avez raison. Un débat à 14-15, on n'a pas envie de l'entendre.
Ouais, non, mais c'est vrai. Il faudrait plusieurs...
C'est pas un débat.
Non, mais il faudrait plusieurs formules, quoi. Mais alors, qui sera dans le grand débat? Qui sera dans le petit débat? Souvenez-vous, il y avait déjà eu ces discussions en 2016-2017. Merci. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à un sujet qui commence à être évoqué aussi dans la campagne présidentielle. Pas par tous les candidats, mais par certains. C'est la fin de vie. Est-ce qu'il faut aller plus loin et légiférer de nouveau sur la fin de vie? Vous savez qu'aujourd'hui, on a la sédation profonde. C'est soumis en fait à des règles quand même assez strictes. Certains disent qu'il faut aller vers le suicide assisté, l'euthanasie.
Comme pour certains pays d'Europe.
Qu'est-ce que vous en pensez sur choisir sa mort? Est-ce que ça doit être un droit? Et jusqu'où? Eh bien, il y a débat autour de ça.
On pose la question ce matin. Est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie, à la sédation profonde, aux soins palliatifs ou sans avis? Pour l'instant, vous êtes pour l'euthanasie à 47,5% et aux soins palliatifs à plus de 26%, mais vous dites quand même que c'est un choix très 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 difficile et que ça mérite d'être discuté assez longuement sur le soutien de famille, justement. Restez avec nous, on en parle dans un instant, et vos appels 0826 300 300 pour évoquer le point, bien sûr, avec nos invités du jour qui arrivent dans un instant. À tout de suite.